Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Le Verseau ou porteur d'eau est une constellation du zodiaque traversée par le soleil du 16 février au 11 mars. Dans l'ordre du zodiaque, la constellation se situe entre le Capricorne à l'ouest et les Poissons à l'est. Le Verseau était l'une des 48 constellations identifiées par Ptolémée. Une fois le Capricorne repéré, vous pouvez facilement voir les étoiles du Verseau, alors qui sont un peu moins brillantes, mais qui sont juste dessous le Capricorne. Le Verseau peut aussi se repérer dans l'axe des ailes du signe, un axe qui passe par les pieds de Pégase, les étoiles du Verseau, pour aboutir côté sud sur Fomalo, du poisson austral, qui est assez brillante. Le reste de la constellation s'étend dans l'axe marqué par le côté ouest du grand carré de Pégase et se prolonge vers le sud jusqu'à Fomalo du poisson austral. On y rencontre successivement Lambda, Theta et Delta Aquarius, qui est la plus brillante. Sa partie la plus visible est la diagonale, marquée par ses étoiles brillantes Alpha Aquarius, Sadal Mec et Beta Aquarius, Sadal Sud. C'est cette diagonale qui prolonge le grand carré de Pégase et pointe sur les deux cornes du Capricorne. L'essentiel de la constellation s'étend au sud-est de cet axe. Si les conditions de visibilité sont suffisantes, vous pourrez identifier devant la tête du Verseau, devant Alpha Aquarius, un astérisme appelé l'urne, qui serait la jarre d'où la constellation verse ses eaux. Cet astérisme a sensiblement la forme d'un triangle équilatéral formé par les étoiles Gamma, Nu et Pi Aquarius, et le triangle étant ponctué par Zeta Aquarius au centre. Dans l'axe Pégase-Fomalo, quelques petits groupes épars et peu visibles marquent les gouttes d'eau répandues par le Verseau. Dans la mythologie, le Verseau était, comme son nom l'indique, le verseur d'eau, ou plus précisément le verseur de vin de Zeus, son échanson. Il s'agissait d'un humain appelé Ganymède, qui est aussi le nom d'un satellite de Jupiter, ce qui est fort logique puisque Jupiter, c'est le nom latin de Zeus. Ganymède était le plus beau des hommes. Il a été enlevé par Zeus pour devenir son échanson et accessoirement son amant. Ce choix a passablement agacé Héra, d'abord parce que son coureur de jupons de mari avait encore ajouté une conquête à sa longue liste, et ensuite parce que Ganymède a remplacé au rôle des chansons la propre fille d'Héra, Hébé. Héra a donc tenté de forcer son époux à renvoyer Ganymède chez les mortels. Au lieu de ça, Zeus l'éleva au ciel sous la forme de la constellation du Verseau. Les traditions grecques et arabes y placent Hydrokos, ou Sakib Alma, qui verse de l'eau dans la bouche du poisson austral, représenté par l'étoile du Fomalo. La constellation est riche en étoiles faibles de magnitude supérieure à 3. Elle est parmi les constellations les plus vieilles du ciel et se trouve dans une zone souvent appelée la mer à cause de son abondance de constellations aquatiques, telles que la baleine, les poissons, le fleuve Éridan. Parfois, le fleuve Éridan est dessiné provenant du pot du Verseau. L'Éridan est une constellation de l'hémisphère sud. Il est situé aux abords d'Orion, du Taureau et de l'Hydre-Mâle. C'est la sixième constellation du ciel par sa taille. Elle contient 300 étoiles, dont 3 sont de magnitude inférieure à 3, principalement disposées sur une ligne sinueuse à la manière d'une rivière. Par sa taille, c'est à la fois une constellation équatoriale et circumpolaire de l'hémisphère sud. Éridan n'est guère visible et elle est assez difficile à tracer. Ces deux étoiles principales en marquent les extrémités. Bêta Éridan, qui s'appelle Coursa, se situe au pied d'Orion, dans la zone équatoriale. Arkenar, Alpha Éridan, est isolée et très brillante, dans la zone australe pratiquement polaire. C'est un repère important d'alignement dans l'hémisphère sud, mais elle ne peut être identifiée par la forme locale des constellations ni par des alignements. À nos latitudes, Arkenar n'est pas visible, il faut descendre sous les 30 degrés de latitude nord pour l'observer. Que ça soit dans la constellation de l'Éridan, du Verseau, ou même dans à peu près toutes les constellations de l'hémisphère nord, les étoiles ont souvent des noms arabes. C'est dû aux travaux astronomiques effectués par les scientifiques arabes pendant l'âge d'or de l'islam, entre le 8e et le 13e siècle, transcrits en langue arabe, puis en langue vernaculaire au Moyen-Âge.
Thank you.
Prenons un peu le temps de revenir sur l'histoire de l'astronomie arabe. Les historiens discernent plusieurs facteurs favorables au développement de l'astronomie arabe. Le premier, c'est la proximité des pays musulmans avec le monde de l'Antiquité classique. Un nombre considérable d'écrits grecs, mais aussi sanskrit ou pélévis, furent traduits en arabe et commentés dès le IXe siècle, entraînant l'assimilation des connaissances de l'étranger et la composition de ces éléments disparates pour faire naître une tradition originale. Les écrits de Ptolémée, rassemblant toutes les connaissances grecques tant sur l'astronomie que sur les mathématiques, la géométrie, furent en particulier très appréciés par les scientifiques arabes qui lui donnèrent son nom d'Almageste, ce qui veut dire « le très grand », qui est un mélange de grec et de langue arabe. S'ensuit une phase de recherche intense, de réception et d'amélioration du système de Ptolémée jusqu'autour du premier millénaire, puis un épanouissement d'une école de pensée spécifiquement arabe en astronomie. En astronomie d'observation, le premier ouvrage d'astronomie purement musulman date de 830. Ce livre, le Zij, est un ensemble de tables donnant les positions successives du Soleil, de la Lune et de 5 planètes connues à l'époque. C'était une compilation des tables de sources indiennes avec les tables faciles de Ptolémée. Il fut un ouvrage de référence dans le monde arabe et eut une influence dans l'Europe médiévale après sa traduction en latin au XIIe siècle par Adélard de Bath. Ces deux siècles virent fleurir de nombreuses tables astronomiques, ou Zij. Elle reprenait l'Almageste de Ptolémée, reconnaissant la valeur des méthodes géométriques employées, et les modernisant à l'aide de nouvelles fonctions trigonométriques, venues des Indes, sinus, cosinus, tangente. Elle corrigeait les valeurs numériques des tables grâce à de nouvelles séries de mesures effectuées. Le monde arabe, par son étendue, offrit la possibilité de mettre en commun des traditions scientifiques différentes, venant de pays différents, de cultures différentes, et des hommes de religions différentes, dans une langue scientifique commune que fut la langue arabe. Cette langue permit des échanges autant sur des textes anciens que sur des textes contemporains et favorisa la mise en place d'une tradition de correspondance scientifique. La structure du monde arabe favorisa également le déplacement des savants et la nouvelle pratique du voyage scientifique. Le mécénat, enfin, principalement celui des califes, permit de créer des grands centres de recherche comme celui de Bagdad, au temps d'Al-Mamoun. L'organisation de la vie religieuse, posant un certain nombre de problèmes liés au calendrier, par exemple, a donné un élan décisif à l'épanouissement de l'astronomie mathématique. En effet, une première question posée par la religion est le calendrier musulman, et plus précisément la détermination de la période du Ramadan. Ce calendrier s'appuie sur les mois lunaires et nécessite de déterminer les mouvements de la Lune. Les mois dans la religion musulmane ne commencent pas avec la nouvelle lune astronomique, mais lorsque le croissant lunaire commence à apparaître au crépuscule. Un second motif de questionnement est la détermination de la Qibla, ou la direction de la Mecque. L'islam demande aux musulmans de prier en se prosternant dans la direction de la Kaaba à la Mecque, et d'orienter les mosquées dans cette direction. Ils ont donc besoin de savoir trouver cette direction, où qu'ils se trouvent sur Terre. Un dernier problème est la détermination du moment de la salat. Les musulmans doivent pouvoir déterminer les heures locales de prière à 5 moments de la journée, de l'aurore au soir, dans toute l'étendue du vaste empire. Les directions étaient déterminées à partir de la position du soleil et des étoiles, l'heure locale à partir de la direction et l'élévation du soleil. Ces méthodes n'étaient pas entièrement nouvelles, mais les scientifiques arabes les ont rendues plus précises grâce au développement de la géométrie sphérique et de la trigonométrie. À la différence des astronomes grecs qui se préoccupaient peu de la cohérence entre les axiomes mathématiques et les principes physiques du mouvement des planètes, les astronomes musulmans s'efforçaient, eux, d'adapter les mathématiques au monde qui les entourait, en respectant les principes de la physique aristotélicienne. Cette exigence et les travaux qui en ont découlé ont partiellement remis en question le modèle de Ptolémée. Le modèle astronomique proposé par Ptolémée rendait compte des irrégularités du mouvement des planètes à l'aide d'un système complexe d'épicycles sur lequel se déplaçaient des planètes, à des vitesses considérées parfois comme constantes non par rapport au centre du cercle, définissant leur trajectoire, mais par rapport à un autre point, les coins. Ce modèle mis en place comportait des erreurs, révélées par la série de mesures entreprises par les Arabes. Il était également en contradiction avec certains principes communément admis. Al-Hazen entreprit donc, au début du XIe siècle, une lecture critique des deux ouvrages de Ptolémée, l'Almageste et le Livre des Hypothèses. Et il y révéla les contradictions internes. Il mit en doute la possibilité d'une réalité physique du modèle. Selon lui, le modèle de Ptolémée faisait appel à des points, des lignes et des cercles imaginaires, incompatibles avec le monde physique. En 1070, Abu Ubad al-Juzjani, un disciple d'Avicenne, proposa un modèle non ptolémaïque dans son traité Tarkib al-Alfaq. Dans ce livre, il formulait un problème, le problème dit de l'écouen du modèle de Ptolémée, et y proposait une solution. L'astronomie arabe s'est ensuite répandue aussi bien à l'est vers la Chine et l'Inde que dans l'Europe occidentale médiévale grâce à la traduction en latin des écrits arabes. Dès la fin du Xe siècle, l'usage et la description des instruments arabes, en particulier l'astrolabe, étaient connus dans le monde occidental par des traductions de traités le concernant. Une seconde vague de traductions, au XIIe siècle, permit de faire connaître au monde occidental les tables et l'astronomie théorique. L'Almageste fut traduit de l'arabe en latin en 1143 par Hermann le Dalmate et les tables d'Al-Khwarizmi vers 1126 par Aldébard de Basse. Mais ce sont surtout les œuvres d'Azrachel, utilisées par Raymond de Marseille avant 1141, puis traduites par Gérard de Crémone sous le nom de tables de Tolède, qui eurent une influence sur le monde occidental, jusqu'à ce qu'elles soient supplantées par les tables alphonsines. Le grand mérite de Nicolas Copernic, c'est d'avoir, dans son modèle héliocentrique, grandement simplifié le modèle planétaire. Il prit conscience des travaux d'Al-Battani et d'Azrachel. C'est de ses écrits qu'il s'inspire pour résoudre le problème d'irrégularité dans le mouvement de la Terre et des planètes. Les variations d'excentricité, la trépidation des équinoxes, la variation de latitude. On peut dater la fin de l'influence de l'astronomie arabe sur l'Occident, latin, à l'apparition du De Revolutionibus de Copernic, en 1543. Les observations de Tycho Brahe rendirent caduques toutes les tables antérieures. Toute trace du système ptoléméen disparut avec le modèle proposé par Johannes Kepler. Le matériel astronomique utilisé par le monde arabe médiéval est pour la plupart issu de l'astronomie grecque, dans laquelle on trouve des références à la sphère armillaire, qui modélise la sphère céleste. Elle était utilisée pour montrer le mouvement apparent des étoiles, du soleil et de l'écliptique autour de la Terre. Les anneaux équinoxiaux, qui reprennent le principe de la sphère armillaire, mais qui ont pour but de donner l'heure, un peu comme un cadran solaire, mais portatif, et qui fonctionne aussi pour les étoiles. Et également le cadran, ou quart de cercle, qui servait à mesurer la déclinaison des astres. Les Arabes vont améliorer tous ces instruments, et en inventer quelques-uns, le plus célèbre étant sans doute l'astrolabe. Cet instrument, fondé sur le principe de la projection de la sphère céleste et de la course du soleil, permettait, entre autres choses, de déterminer l'heure locale grâce à la mesure de la hauteur d'un astre, de mesurer la hauteur d'un bâtiment, de déterminer l'heure du lever ou du coucher des astres, etc. Ce qui permettait de répondre à plusieurs questions posées par la religion musulmane,